Extrait du rêve d'un homme ridicule de Fédor Dostoïevski. Je suis un homme ridicule. Maintenant, ils disent que je suis fou. Ce serait une promotion s'ils ne me trouvaient pas toujours aussi ridicule. Mais maintenant, je ne me fâche plus. Maintenant, je les aime tous, et même quand ils se moquent de moi, c'est surtout là, peut-être, que je les aime le plus. Je me moquerais bien avec eux, pas de moi-même, non, mais en les aimant, si je n'étais pas si triste quand je les vois. Si triste parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, et moi, je connais la vérité. Oh, qu'il est dur d'être le seul à connaître la vérité, mais ça, ils ne le comprendront pas. Non, ils ne le comprendront pas. Avant, pourtant, je me suis bien rongé d'avoir l'air ridicule. Pas d'avoir l'air, d'être. J'ai toujours été ridicule, et je le sais, peut-être depuis le jour de ma naissance. J'avais 7 ans, peut-être. Je savais déjà que j'étais ridicule. Après, je suis allé à l'école. Après, à l'université. Et quoi? Plus j'apprenais des choses, plus je n'en apprenais qu'une, que j'étais ridicule. Si bien qu'à la fin, toute ma science universitaire, pour moi, c'était comme si elle n'était là que pour une chose, pour me prouver et m'expliquer, au fur et à mesure que je l'approfondissais, que j'étais ridicule. Et la vie suivait la science. D'année en année, je sentais grandir et se renforcer en moi cette conscience perpétuelle de mon air ridicule à tous les points de vue. Tout le monde s'est toujours moqué de moi. Mais personne ne savait, ne pouvait deviner que s'il y avait un homme sur terre qui savait plus que tous les autres que j'étais ridicule, eh bien, c'était moi-même. Et voilà bien ce que je trouvais le plus humiliant, qu'il ne le sache pas. Mais là, c'était ma propre faute. J'ai toujours été si orgueilleux que jamais, pour rien au monde, je n'ai voulu le reconnaître devant personne. Cet orgueil, s'il s'accroissait en moi d'année en année, et si je m'étais autorisé à le reconnaître même devant n'importe qui, je crois que, là, sur le champ, le soir, je me serais pulvérisé la tête d'un coup de revolver. Oh, comme je souffrais dans mon adolescence de ce que je ne puisse pas y résister et que, d'un coup, d'une façon ou d'une autre, je le reconnaisse, moi-même, devant mes camarades. Mais depuis que j'étais devenu un homme, même si j'apprenais d'année en année et toujours de plus en plus cette particularité monstrueuse qui était la mienne, je suis, je ne sais pas pourquoi, devenu un peu plus calme. Et justement, je ne sais pas pourquoi parce que, jusqu'à maintenant, je suis incapable de dire pourquoi. Peut-être parce qu'une circonstance faisait croître une angoisse terrible dans mon âme, une circonstance infiniment plus forte que tout mon être. Je veux dire, cette conviction constante qui m'avait pénétré que tout, au monde, partout, était égal. Cela, je le pressentais depuis très longtemps, mais cette conviction totale m'est venue au cours de cette année et, bizarrement, d'un coup. J'ai senti, d'un coup, que ça me serait égal, qu'il y ait un monde ou qu'il n'y en ait rien nulle part. Je me suis mis à entendre et à sentir par tout mon être qu'il n'y avait rien de mon vivant. Au début, j'avais toujours l'impression que, par contre, il y avait eu beaucoup de choses dans le passé, mais après, j'ai compris que, dans le passé non plus, il n'y avait rien eu, que c'était juste, je ne sais pourquoi, une impression. Petit à petit, je me suis convaincu qu'il n'y aurait jamais rien non plus. À ce moment-là, d'un coup, j'ai cessé d'en vouloir aux hommes et je ne les ai presque plus remarqués. Vous savez, ça se disait même dans les détails les plus infimes. Par exemple, ça m'arrivait. Je marchais dans la rue, je me cognais à quelqu'un, et pas parce que je pensais à quelque chose, à quoi pouvais-je bien penser? J'avais complètement arrêté de penser à ce moment-là. Ça m'était égal. Si encore j'avais résolu les questions. Oh, je n'en avais résolu aucune, et Dieu sait qu'il y en avait. Mais tout m'était devenu égal, et les questions s'étaient toutes éloignées. Et donc, mais après ça, j'ai su la vérité. La vérité, je l'ai su en novembre dernier, et plus précisément le 3 novembre, et depuis ce temps-là, je me souviens de chacun de mes instants. C'était un soir lugubre, le plus lugubre qu'il puisse y avoir. À ce moment-là, à 11h du soir, je rentrais chez moi, et justement, je me suis dit que vraiment, il ne pouvait y avoir de moment plus lugubre. Même d'un point de vue physique. Il avait plu toute la journée, et c'était une pluie froide et la plus lugubre, une pluie même qui était comme féroce. Je me souviens de ça, pleine d'une hostilité flagrante envers les gens. Et là, d'un coup, vers 11h du soir, la pluie s'est arrêtée et une humidité terrible a commencé. C'était encore plus humide et plus froid que pendant la pluie, et une espèce de vapeur remontait de tout ça, de chaque pierre dans la rue et de chaque ruelle. si l'on plongeait ses yeux dedans, au plus profond, le plus loin possible, depuis la rue. D'un coup, j'ai eu l'idée que si le gaz s'était éteint partout, ça aurait été plus gai, que le gaz rendait le cœur plus triste parce qu'il éclairait tout. Ce jour-là, je n'avais presque rien mangé et j'avais passé tout le début de la soirée chez un ingénieur où il y avait encore deux autres amis. Moi, je me taisais toujours et je crois que je les ennuyais. Ils parlaient de quelque chose de révoltant et même, d'un coup, ils se sont échauffés. Mais ça leur était égal, je le voyais, et ils s'échauffaient juste comme ça. C'est bien ce que je leur ai dit d'un coup. « Messieurs, je leur ai dit, mais ça vous est égal ?» Ils ne se sont pas sentis vexés. Ils se sont tous moqués de moi. C'était parce que j'avais dit ça sans le moindre reproche, et juste parce que ça m'était égal à moi aussi. Eux, ils avaient vu que ça m'était égal, ça les avait tous deux mis en joie. Quand j'ai eu cette idée sur le gaz dans la rue, j'ai regardé le ciel. Le ciel était terriblement obscur, mais on pouvait nettement distinguer les nuages avec, entre eux, des taches noires insondables. Tout à coup, dans une de ces taches noires, j'ai remarqué une toute petite étoile et je me suis mis à la regarder fixement. C'était parce que cette toute petite étoile m'avait donné une idée. J'ai décidé de me tuer cette nuit-là. Cette décision, je l'avais prise fermement depuis déjà 2 mois. Et, tout pauvre que j'étais, j'avais acheté un très beau revolver et, le jour même, je l'avais chargé. Mais 2 mois s'étaient déjà passés et il était toujours resté dans son tiroir. Mais tout m'était tellement égal que j'avais fini par vouloir tomber sur une minute où ça me serait moins égal. Pourquoi ça? Je n'en sais rien. Et donc, de cette façon, tous les soirs, en rentrant chez moi, je me disais que j'allais me brûler la cervelle. Je guettais la minute. Et là, donc, maintenant, cette petite étoile m'avait donné l'idée, et j'ai décidé que ce serait absolument pour cette nuit. Et pourquoi cette petite étoile m'a donné cette idée, je n'en sais rien. Et là, pendant que je regardais le ciel, tout à coup, cette petite fille m'a saisi par le coude. La rue était déjà déserte, il n'y avait presque plus personne. Au loin, un cocher dormait sur ses drojkis. La petite fille avait, dans les 8 ans, un petit foulard sur les épaules avec juste une robe, toute trempée, mais je me suis souvenu surtout de ses souliers, troués et trempés, et je m'en souviens toujours. Ce sont eux, surtout, qui m'ont sauté aux yeux. Elle, tout à coup, elle s'est mise à me tirer par le coude et à m'appeler. Elle ne pleurait pas, mais d'une voix bizarrement inquiétante, elle criait des mots qu'elle n'arrivait pas à prononcer correctement parce qu'elle était prise de fièvre, traversée de frissons. Je ne sais pas pourquoi, elle criait d'une voix terrorisée, désespérée. « Ma maman, ma maman !» Je m'étais déjà tourné vers elle, mais je n'ai pas dit un mot. Et je poursuivais mon chemin, mais elle me poursuivait et me tirait par le coude, et à ce moment-là, sa voix a eu ce son qui signifie le désespoir chez les enfants vraiment terrorisés. Ce son, je le connais. Même si elle n'articulait pas les mots, j'ai bien compris que sa mère était en train de mourir je ne sais où, ou bien que quelque chose leur était arrivé et qu'elle avait couru appeler quelqu'un, trouver quelque chose pour aider sa maman. Mais je ne l'ai pas suivie et au contraire, j'ai eu tout à coup l'idée de la chasser. J'ai commencé par lui dire d'aller trouver un gendarme. Mais d'un seul coup, elle a joint ses petites mains comme pour me supplier et, en sanglotant, en haletant, elle courait toujours à côté de moi et ne me lâchait pas. C'est là que j'ai tapé du pied et que j'ai crié « Elle, elle s'est juste... » et que j'ai crié, pardon. Elle s'est juste exclamée « Monsieur, monsieur !» Mais d'un seul coup, elle m'a abandonné et elle a traversé la rue à toute vitesse. Là aussi, un passant venait d'apparaître et, visiblement, elle m'abandonnait pour se jeter vers lui. J'ai grimpé jusqu'à mon 4e étage. Je vis en location et nous avons des meublés. Ma chambre, elle, est pauvre et petite, avec une fenêtre de grenier et un demi-cintre. J'ai un divan couvert de toiles cirées, un bureau sur lequel il y a des livres, 2 chaises et un fauteuil profond, d'une vieillesse insigne, mais un fauteuil Voltaire. Je me suis assis, j'ai allumé la bougie et j'ai pensé. À côté, dans l'autre chambre, derrière la cloison, la débauche continuait. Cela faisait 2 jours qu'il n'arrêtait pas. La pièce était occupée par un capitaine à la retraite et il avait des invités. 5 ou 6 bons à rien, il buvait de la vodka et il jouait au stos avec des cartes usées. La nuit d'avant, il y avait eu une bagarre et je sais que 2 d'entre eux s'étaient longuement traînés par la tignasse. La logeuse voulait se plaindre, mais elle a eu une peur bleue du capitaine. Comme d'autres locataires dans nos meublés, il n'y a qu'une petite dame malingre et frêle, une femme de soldat, une provinciale, avec 3 petits-enfants, et qui sont tous tombés malades dans nos meublés. Ses enfants et elle, ils ont peur du capitaine à s'en évanouir. Ils passent la nuit à trembler et à se signer, et même le plus petit, de peur, a fait une espèce de crise. Ce capitaine, je le sais de source sûre, il lui arrive d'arrêter les passants sur le Nevski et de demander l'aumône. On ne veut de lui à aucun poste. Mais, chose étrange, c'est bien pour cela que je le raconte, ce capitaine, depuis un mois qu'il vit chez nous, il ne m'a jamais énervé le moins du monde. Évidemment, et dès le début, j'ai évité de le fréquenter. Et puis, il s'est vite ennuyé avec moi, mais ils avaient beau crier tant qu'ils voulaient derrière la cloison, et s'entasser à autant qu'ils voulaient, moi, ça m'était toujours égal. Je reste toute la nuit dans mon fauteuil, et réellement, je ne les entends pas. Tellement je les oublie. Parce que toutes les nuits, je ne dors pas, et jusqu'à l'aube, et voilà déjà un an que ça dure. Je passe toutes mes nuits devant mon bureau, dans un fauteuil, et je ne fais rien. Les livres, je ne les lis que dans la journée. Je reste là, et même, je ne pense pas. C'est juste comme ça, quelques pensées errantes, et je les laisse errer. La bougie fond jusqu'au bout pendant la nuit. Je me suis assis à mon bureau sans faire de bruit, j'ai sorti le revolver et je l'ai posé devant moi. Quand je l'ai sorti, je me souviens, je me suis demandé « Oui ?» et je me suis répondu d'une manière absolument affirmative « Oui !» C'est-à-dire que j'allais me tuer. Je savais que cette nuit-là, j'allais me tuer d'un coup sûr. Mais combien de temps j'allais encore rester devant mon bureau jusqu'à ce moment-là, cela, je n'en savais rien. Et bien sûr, je me serais tué sans cette petite fille. Chapitre 2. Vous comprenez, bien sûr, que ça m'était égal, mais la douleur, par exemple, je la ressentais. Quelqu'un m'aurait frappé et j'aurais senti de la douleur. C'était exactement pareil d'un point de vue moral. S'il était arrivé quelque chose qui fasse vraiment pitié, j'aurais ressenti de la pitié, exactement comme à l'époque, quand tout ne m'était pas encore égal dans la vie. J'avais bien ressenti de la pitié sur le moment. L'enfant, malgré tout, je l'aurais sûrement aidé. Alors pourquoi n'ai-je pas aidé la petite fille? Eh bien, à cause d'une idée qui m'était venue. Quand elle me tirait et qu'elle m'appelait, tout à coup, une question avait surgi devant moi, une question que je ne pouvais pas résoudre. La question était oiseuse, mais je me suis fâché. Si je me suis fâché, c'est suite à cette conclusion que, si j'avais pris ma décision de me suicider cette nuit, alors tout devait m'être égal dans le monde. À ce moment-là, plus encore que jamais. Pourquoi donc avais-je tout à coup senti que ça ne m'était pas égal et que j'avais pitié de la petite fille? Je me souviens, j'ai eu pitié très fort. C'était même une espèce de douleur étrange et même invraisemblable dans ma situation. Non, je suis incapable de mieux traduire cette sensation fugitive qui m'était venue à ce moment-là, mais cette sensation s'est encore prolongée chez moi quand je m'étais déjà assis devant le bureau et j'étais très agacé comme jamais depuis longtemps. Les réflexions suivaient les réflexions. Il m'apparaissait clairement que je suis un homme et pas encore du rien. Et tant que je ne suis pas devenu du rien, je vis. Et donc, je suis capable de souffrir, d'éprouver de la colère ou de la honte pour mes actes. Bon. Mais pourtant, si je me tue, par exemple, dans 2 heures, alors qu'est-ce qu'elle me fait, la petite fille? Et quelle importance, dans ce cas-là, la honte et tout ce que vous voulez au monde? Je deviens du rien total. Et qu'est-ce réellement la conscience du fait que dans un instant, je cesserais complètement d'exister et donc que rien n'existerait ne pouvait avoir la moindre influence sur cette sensation de pitié pour la petite fille et cette sensation de honte après l'infamie que j'avais commise. Parce que c'est bien pour cela que j'avais tapé des pieds et que j'avais crié d'une voix hystérique sur cette malheureuse enfant. Parce que, n'est-ce pas, non seulement, tiens, je ne ressens aucune pitié, et même si je commets une infamie inhumaine, maintenant, j'en ai le droit, parce que d'ici 2 heures, tout sera éteint. Vous me croyez que c'est pour cela que j'ai crié? Pour moi, maintenant, c'est presque une certitude. Je me représentais clairement que maintenant, la vie et le monde étaient comme dépendants de moi. On peut même le dire de cette façon, que maintenant, le monde, c'est comme s'il était fait que pour moi seul. Je me tue et le monde n'existe plus, du moins pour moi. Sans parler déjà de ce fait que peut-être, c'est vrai qu'il n'y aura rien pour personne après moi. Et le monde entier, à peine ma conscience se sera éteinte, s'éteindra tout de suite comme un spectre, un attribut de ma seule conscience, et cessera d'être parce que peut-être ce monde dans son ensemble, et tous ces hommes, au fond, ils sont juste moi seul. Je me souviens qu'en réfléchissant dans mon fauteuil, je me retournais à toutes ces nouvelles questions qui me pressaient les unes après les autres, dans une direction même complètement différente, et j'inventais des choses vraiment inattendues. Par exemple, cette réflexion étrange m'est venue tout à coup que si j'avais vécu auparavant sur la Lune ou sur Mars et que j'y ai commis l'acte le plus honteux et le plus déshonorant qui puisse seulement s'imaginer, et si, là-bas, pour cet acte, on m'avait avili et déshonoré comme on ne peut le ressentir et se l'imaginer qu'en rêve, dans un cauchemar, et si, me retrouvant après sur Terre, j'avais conservé la conscience de mon acte sur telle autre planète et que, de plus, j'ai su plus que jamais... que jamais plus, et pour rien au monde, je n'y retournerai, eh bien, en regardant la Lune depuis la Terre, est-ce que, oui ou non, ça me serait encore égal? Aurais-je ressenti, oui ou non, de la honte pour mon acte? Ces questions étaient oiseuses et inutiles, parce que le revolver était déjà posé devant moi, et que je savais par tout mon être que ça, ce serait à coup sûr. Mais elle m'échauffait, et je m'agitais. C'était comme si je ne pouvais pas mourir maintenant, avant d'avoir résolu quelque chose. Bref, cette petite fille m'a sauvé la vie parce que toutes ces questions ont éloigné le coup de feu. Pendant ce temps, chez le capitaine aussi, tout avait commencé à se calmer. Ils en avaient fini avec leurs cartes et ils s'installaient pour dormir, et en attendant, ils se contentaient de grogner et finissaient, sans conviction, de s'injurier. Et c'est là, tout d'un coup, que je me suis endormi. Ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant, dans mon fauteuil, devant mon bureau. Je n'ai pas du tout remarqué à quel moment je me suis endormi. Les rêves, on le sait, ce sont des phénomènes extrêmement étranges. Telle chose apparaît avec une précision terrifiante, une finesse de joaillier dans le rendu d'un détail, alors qu'on saute par-dessus telles autres, comme sans les remarquer du tout, par exemple, par-dessus l'espace et le temps. Les rêves, semble-t-il, sont mus non pas par la raison, mais le désir, non par la tête mais par le cœur, et néanmoins parfois ma raison pouvait me jouer en rêve de ces tours tellement rusés. Et néanmoins, il lui arrive en rêve des choses tout à fait incompréhensibles. Mon frère, par exemple, est mort il y a 5 ans. Parfois je le vois en rêve. Il prend une part active à mes affaires, nous sommes tous les deux très passionnés, et néanmoins moi-même, pendant toute la durée du rêve, je sais, je me rappelle parfaitement que mon frère est mort et enterré. Comment donc puis-je ne pas m'étonner de ce que, tout mort qu'il peut être, il soit quand même à mes côtés et s'agite avec moi? Pourquoi ma raison peut-elle parfaitement admettre cela? Mais il suffit, j'en viens à mon rêve. Oui, c'est alors que ce rêve m'est venu, ce rêve du 3 novembre. Il me rit au nez maintenant, ils me disent que, justement, ce n'est qu'un rêve. Mais n'est-ce pas égal que ce soit un rêve ou non, si ce rêve est venu m'annoncer la vérité? Car si, une seule fois, vous aviez su la vérité, et si vous l'avez vue, vous savez bien quelle est la vérité, et qu'il n'y en a pas d'autre, et qu'il ne peut pas y en avoir d'autre, parce que vous dormiez ou bien que vous viviez. Eh bien, soit, c'est un rêve, soit. Mais cette vie, que vous placez si haut, j'aurais voulu l'éteindre par le suicide, alors que mon rêve, oh mon rêve, il m'a annoncé une vie nouvelle, grandiose, puissante, renouvelée. Écoutez. Alors, vous ne saurez pas le rêve, puisque j'arrête ici ma lecture. C'était Le rêve d'un homme ridicule, extrait du rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski, traduit par Markovitch, publié chez Babel. Alors, bonne éventuelle lecture.